faire, il ne le fit pas. Cela de plus fort à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu du bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu du bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « J'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté d'aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouve plus de 120 000 hommes qui ne savent distinguer leur droit de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. » C'est vraiment une histoire, comment dirais-je, bouleversante, mais aussi pour voir la faillite de l'homme, même le meilleur soit-il, puisque Jonas, c'est le prophète de Dieu. Je vais quand même rappeler tout simplement, dans le premier chapitre, Jonas a fui la face de Dieu. Fuir Dieu, c'est jamais une solution. Nous avons vu qu'en fuyant Dieu, il s'est retrouvé en difficulté, il a mis en difficulté ces mêmes qui voyageaient avec lui. Donc, c'est dangereux de s'éloigner de Dieu, nous apportons aussi le malheur aux autres. Il a été courageux, il a été passé par-dessus bord en reconnaissant qui il était. Voilà. Les païens, les mariniers, ils ont invoqué, ils ont eu la trouille de leur vie parce que de lancer une personne en pleine mer, c'est pas quand même facile. Mais quand même, ils ont invoqué le Dieu de Jonas. Ça, c'est quand même de se rappeler cela. Donc, Jonas a été un instrument, bien sûr, défaillant. Nous avons souligné que Jésus a mis le sceau sur cette histoire parce que dans Matthieu chapitre 12, Jésus a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Donc, le message de Jonas, c'est un message prophétique. C'est pourquoi il faut prêter attention. Ce message concerne une génération méchante, corrompue. Je suis convaincu aussi que nous vivons dans cette génération. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à cœur que nous puissions vraiment méditer ce texte. Donc ce soir, nous allons regarder ensemble. Nous avons vu que Jonas a prié dans le chapitre 2. Même dans la difficulté, quand on prie, Dieu nous vient en aide. La clé dans la prière, même quand on s'éloigne de Dieu, Dieu nous rattrape. Mais le message de Dieu ne change jamais pour nous, puisqu'il doit donner le même message, va à Ninive. Donc la volonté de Dieu ne change pas. Il est parti malgré lui, il a vécu un miracle extraordinaire. Donc c'est pourquoi c'est encourageant. Si Dieu a utilisé un prophète désobéissant, si nous obéissons un peu, nous pouvons voir aussi des grandes choses, parce qu'il a eu quand même une chose extraordinaire, la conversion de toute une ville. Quand même, c'est beau. Hein? Moi, je dois reconnaître des échecs. Je n'ai pas vu de telles choses de conversion de toute une ville. J'ai vu quelques encouragements. Ça, c'est quand même formidable de voir la conversion de toute une ville. En Afrique, quand on est parti avec Marie-France en Afrique, il y a eu la conversion de tout un village parce qu'il y a un homme qui était fou, qui était reconnu, qui a été visité. Voilà. Il faisait la une du village. Quand il s'est converti, tout le village est venu. Ça, c'est beau. Donc, je me suis dit, si Dieu opère des miracles, des prodiges, ces gens, des choses peuvent se produire encore aujourd'hui parce que Dieu n'a pas changé. Hmm? Jonas est parti à Ninive. 3 jours de marche. Hein? Oui, nous avons plus que 3 jours pour marcher dans la ville de Manos, ses environs, pour proclamer, pour inviter les gens. Je suis convaincu que si nous sommes fidèles, Dieu peut faire des grandes choses. Donc Jonas, 4e chapitre, il attend, malgré qu'il a obéi malgré lui, il s'attend à ce que la ville soit détruite. Même comme il y a eu la repentance, Dieu ne l'a pas fait. Il a sauvé la vie. Je voudrais souligner ce soir en disant, première pensée, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Je suis convaincu que Dieu voit ce que nous faisons. Il ne voit pas seulement ce que nous faisons publiquement, il voit aussi ce que nous faisons en cachette. Quand vous êtes dans la chambre à coucher, quand vous êtes à l'insu de tous, Dieu voit. Hein? J'ai côtoyé dans la ville de Manosque quelqu'un, il a changé de trottoir parce qu'il avait la cigarette. Je ne dis pas qu'il était devenu ça. Mais on le dit que Dieu voit. Il aurait fallu, et puis j'ai attrapé gentiment cette personne, j'ai dit, ça serait bien de remporter la victoire. Non, ce n'est pas vrai. Je dis comment, c'est pas vrai. Donc Dieu veut que nous soyons vrais. C'est sûr qu'il y a des défauts en nous. Mais si nous venons avec nos défauts, Dieu va nous aider. Je suis convaincu que Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait tout et Dieu agit. Parce qu'il est vivant. Nous avons un Dieu vivant. Le Dieu de la vie, ce n'est pas le Dieu qui nous condamne. Il veut au contraire nous récupérer. Donc Dieu a vu que les Ninivites s'étaient repentis. L'importance de la repentance. Je suis convaincu que la connaissance de Dieu change une destinée. Job dit dans son épreuve, Job 19, 25 à 27, Job dit dans son épreuve, je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Ça c'est beau. Au verset 26, il dit, quand ma peau sera détruite, il se levera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est formidable. Donc, Job croyait à la résurrection, à l'au-delà, puisqu'il est question que sa peau sera détruite. C'est formidable. Donc, Job croyait au Dieu de la résurrection. Je vais croire aussi que ce soir, nous croyons au Dieu de la résurrection. La clé de l'action de Dieu pour, comment dirais-je, enrayer le jugement, c'est parce qu'il y a eu la repentance dans la ville de Ninive. Mais qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance est une clé de la restauration. Je suis convaincu que Dieu veut que je me repente. Il veut que nous nous repentions des choses que nous faisons qui ne sont pas à sa gloire. Donc, les Ninivites se sont repentis. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, la tristesse, selon Dieu. Beaucoup de gens sont tristes parce qu'ils ont fait des bêtises. mais il ne change pas. C'est ça le drame. Je voulais imaginer par deux témoignages. D'abord, le témoignage de Pierre. Pierre a renié le maître 3 fois. Jésus l'a regardé, il a pleuré amèrement. C'était une profonde repentance. Mais par contre, Judas a eu le remords. Il y avait la tristesse du monde. La fin, c'est qu'il s'est pendu. Il est allé se pendre. Eh oui. Donc, la tristesse de Judas, c'était pas une bonne tristesse. C'était pas une tristesse selon Dieu. Eh oui. Il a répandu l'argent sur terre. Il est parti se pendre. Donc, Dieu veut, quelles que soient nos erreurs, nos manquements, nous puissions nous repentir. La repentance, c'est un retour vers Dieu. Jean-Baptiste prêchait la repentance. La repentance doit produire des fruits. Moi, j'aime beaucoup du citron. Je montre un arbre, me dit c'est un citronnier. Si je ne vois pas de citron, je m'inquiétais. Ça vous dit? Oui. En Afrique, il y a beaucoup de mangues sur la route. Et il y a des preuves, parce qu'on voit les mangues, et puis on voit des mangues, les gens vont prendre. Mais si on vous dit, vous êtes chrétien, il n'y a pas de fruits de la vie chrétienne. C'est difficile, quand même. On m'a dit, il est chrétien. J'avais des doutes, je veux dire. Donc, si quelqu'un est chrétien, il doit produire les fruits. Ce n'est pas nous qui produisons les fruits. C'est la vie que Dieu a mis à nous qui va produire des fruits. Je suis convaincu que dans chaque chrétien, il y a des fruits en miniature qui doivent se développer. Donc, Jean Baptiste prêchait la repentance. L'Écriture nous dit dans Actes 5, 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc la repentance, quand il y a la repentance, il y a le pardon. Eh oui. Jésus, à la croix, a pardonné les bourreaux, il a pardonné l'humanité. Mais pour cueillir, recevoir le fruit, bien sûr, du pardon, il faut se repentir, il faut venir. Tous ceux qui sont venus à la croix, ils reçoivent le pardon. Et c'est vrai, je suis convaincu, ce soir, Actes 11, 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Voilà. Pierre a annoncé qu'il était parti chez les païens, parce que les juifs se disent, c'est pas possible d'aller chez les païens, on se mélange pas, c'est pas possible. Alors il a dit ce qui s'était passé. Alors ils ont glorifié Dieu, parce que Dieu avait accordé la repentance. Dans la repentance, il y a la vie de Dieu. Lorsque nous nous repentons, nous bénéficions de la vie de Dieu. La repentance, non seulement est une bénédiction pour le croyant, mais c'est le chemin de la grâce. Quand on se repent, on va recevoir la grâce de Dieu. Romains 2,4. Dieu dit, méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc nous bénéficions de la grâce de la bonté de Dieu lorsque nous venons à lui. L'apôtre Paul a dit à Timothée, c'est valable pour les jeunes. Il dit, fuis même le moins jeune, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Oh, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur de querelles, il doit au contraire être affable, avoir de la considération pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, j'en ai besoin. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenir au bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui se sont emparés d'eux pour le soumettre à sa volonté. Un jour, dans un dialogue prolongé, j'ai dit à un frère, sois simple, pourquoi chercher midi à 14h? Parce qu'il discutait, J'ai dit, Dieu, il est pur. Dieu, il est saint. Dieu, il n'est pas compliqué. Dieu veut qu'on soit simple. Je suis convaincu. Voilà le conseil de l'apôtre Pierre. Pierre dit dans 2 Pierre 3:9, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Nous ne devons pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu ne vient pas. Où est Dieu? La raison. Il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu use de patience pour que moi, je vienne à la repentance. Eh oui. Donc la repentance, c'est vraiment une bénédiction. Une des clés du salut des Ninivites, c'est parce qu'ils sont repentis. Voilà, si on a une tristesse devant Dieu, qu'on a demandé pardon à Dieu, on ne doit pas faire les mêmes choses. Eh oui. C'est important. La tristesse que produit le monde conduit vers la mort. Jonas dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je me disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu. Quel Dieu nous servons ?» C'est important. Jonas connaissait le vrai Dieu. Alors, je regardais quelques caractéristiques du Dieu de Jonas. 1. C'est un Dieu compatissant. Je suis convaincu ce soir que notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Jésus, dans Matthieu 9, 36, dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Dieu a compassion de nous. S'il a eu compassion de moi, il va avoir compassion de ceux qui sont perdus. Parce que lui, il ne fait pas de différence. Je rappelle le bon samaritain. Le lévite est passé outre. Le sacrificateur est passé outre. Mais, dans Luc 10, 33, un samaritain fut ému de compassion. Nous sommes invités à être émus de compassion. Eh oui. Le prophète Esaïe dit, 54, 8, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Donc Dieu, il a compassion de nous. Eh oui. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jonas, c'est le Dieu de la miséricorde. Que jamais dans l'Église nous oublions le Dieu de miséricorde. Parce que souvent, quand on a réussi, quand tout va bien, quand tout baigne dans l'huile, comme on le dit à Marseille, on pense qu'on est le meilleur. On oublie que le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la miséricorde. Si je suis debout, c'est lui qui est tombé, que je puisse croire que Dieu peut le relever. C'est important. La Bible nous dit que c'est lui qui est debout, prenne garde, ne pas tomber. Parce que nous sommes tous fragiles et faibles. Il y a un frère avec qui nous discutions, il y avait une personne qui était en difficulté, il a dit, frère, ça, jamais ça m'arrivera. J'ai dit, malheureux, faites attention. Et quelques années après, ça n'a pas loupé. Pourquoi je vais dire? Il ne faut jamais dire ça. Parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer demain. Il avait dit que lui, jamais. La miséricorde, je le rappelle, c'est une corde tendue à notre misère. Je rappellerai l'image expressive dans la vie de Rahab, cette prostituée de Jéricho. C'est une femme sale, femme de mauvaise vie. Mais comme elle a cru, Dieu l'a sauvée. Elle est rentrée dans sa famille. Une femme formidable de foi. Quelle que soit notre saleté, quelle que soit notre misère, si nous croyons, Dieu est capable de nous rétablir pour nous faire élever à une dimension qu'on ne peut pas atteindre. Je rappellerai pour votre méditation, prenez chez vous le psaume 136. Voir les conséquences et les fruits de la miséricorde. Le Dieu de Jonas, c'était un Dieu qui est lent à la colère. Dieu, il est lent à la colère. Je rappelle dans l'histoire de Moïse. Moïse, Aaron et Marie, ils se sont coalisés en disant « Tu n'es pas le seul prophète, Dieu parle aussi par nous. » Et la Bible nous dit « Dieu s'est mis en colère. » Et la lèpre a éclaté sur le visage de Marie. Ça a arrêté la marche pendant une semaine. Et puis Moïse a prié, bien sûr. Dieu a eu compassion. Nous devons vraiment faire attention. Donc Dieu peut se mettre en colère. Je rappellerai aussi l'histoire d'Acan. Il y a eu la conquête, une belle victoire. Et Acan a pris des choses, l'argent, de l'or, il a caché dans sa tente. Je vais imaginer des choses que nous cachons dans notre tente. Notre corps, c'est comme la tente. Et puis, il y a eu la défaite. Ils se sont posé la question. Et Dieu s'est mis en colère. Mais dans le Nouveau Testament, on peut rappeler l'histoire d'Ananias et Saphira. Oui. Ils ont donné une fausse offrande. C'est dangereux. Dans le Nouveau Testament, ils ont fait croire que... Eh oui. Donc, on a besoin de nous rappeler ces choses. Vous lirez dans Actes chapitre 1, nous n'avons pas le temps. Quand même, le Dieu de la Bible, il est lent à la colère. Et souvent, nous ne sommes pas lents à la colère. Mais je conseille toujours aux parents de ne pas corriger leurs enfants dans la colère. Parce que quand on corrige dans la colère, on fait beaucoup de mal. Je rappellerai, Moïse, dans la colère, Dieu lui avait dit de parler au rocher. Il a frappé le rocher. Et Dieu a sanctionné. Et Dieu lui dit, tu ne verras pas. Tu n'entreras pas dans le pays promis. Donc j'ai besoin, nous avons besoin de faire attention. Le Dieu de Jonas, c'est un Dieu qui est riche en bonté. Il est riche en bonté. Quand nous pensons à notre misère, Lamentations 3, 19 à 21, quand nous avons de la misère, de la souffrance, de la détresse, pensons que Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Il a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Psaume 90, 10. Psaume 90, 15. Moïse a prié. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous avons besoin de la bonté de Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jonas, c'est le Dieu qui se répand du mal lorsque la repentance vient. Mon frère, ma soeur, je voulais quand même dire que la repentance est une clé de la bénédiction pour le croyant. Même lorsqu'on a marché pendant longtemps, il faut savoir, bien sûr, se placer devant le Seigneur et sonder son cœur. Jonas demande la mort. Alors j'ai noté, heureusement que Dieu n'a pas répondu à sa prière. Vous pouvez considérer les demandes qu'on fait sous le coup de la chair. C'est vraiment une prière charnelle. Parce que ça lui déplaisait, il a demandé la mort. Il dit, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Pas seulement Jonas. Élie, il a demandé la mort. Donc, si ils ont demandé, ça peut m'arriver. Mais oui. Heureusement que Dieu n'a pas exaucé. Donc parfois, Dieu ne nous exauce pas à cause de sa bonté. Quand nous sommes dans la désobéissance, nous devenons parfois insensés dans nos demandes. Parce que Jonas n'avait pas un bon état d'esprit. Dieu lui dit, l'Éternel répondit, fais-tu du bien de t'irriter? Ça vous est jamais arrivé de vous irriter? Moi, je dois avouer, ça m'est arrivé déjà. Je me rappelle, je dis le dire à l'église, les chrétiens, c'est quelqu'un qui venait à l'église, il avait toujours compris pour lui, il disparaissait. On a prié pour lui, Dieu l'a béni. Il a disparu. Et puis, quelques mois après, il revient, « Monsieur le pasteur, priez pour moi. » On a prié pour lui, Dieu l'a béni, il a disparu. La troisième fois, ça m'a irrité. J'ai dit, tu pries toi-même. C'est pas bien. Et puis après, c'est rentré dans mon cœur. Dieu m'a repris. Mais tu pries quand même pour lui. Parce qu'il n'avait pas beaucoup compris. Eh oui. Je l'ai mal jugé. Lui, il ne connaissait pas Dieu. On lui avait dit, va là-bas, Dieu va te bénir. Donc il venait seulement qu'il pour recevoir. Donc il y a des chrétiens, des personnes qui sont comme des sensibles. Donne, 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 donne. Et moi, je dis stop. Voilà, je l'avoue, je n'avais pas bien agi. Donc, Dieu dit, fais-tu du bien pour t'irriter. L'irritation n'est pas toujours une bonne chose. Ecclésiaste 7, 8, 9. Il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient avec qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose au sein des insensés. Job 36-18, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Dieu veut que nous ne puissions pas nous irriter. Proverbe 19-3, la folie de l'homme pervertit sa voix, c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Donc, Jonas s'est irrité devant Dieu. Il était conscient quand il est parti à Tarsis. Il ne voulait pas aller à Ninive parce que les Ninivites, c'est leur affaire. Dieu lui a donné la leçon d'irrite. Sera ma conclusion. Je suis convaincu que ce livre de Jonas, il est précieux parce que c'est un livre prophétique. Nous avons besoin de le considérer dans la prière. Jonas a éprouvé une grande joie. Il s'est mis sous l'ombrage. Dieu a fait pousser un ricin. Alors je me suis dit, parfois Dieu fait pousser des ricins dans nos vies. Une vie tranquille, pas de soucis, tout va bien. Et parfois, il envoie un ver pour piquer. Tout dit. Il envoyait un vachot. Il y a des événements dans la vie qui bousculent nos vies. Mais si nous pouvions réfléchir, la raison... Il faut reconnaître, bien sûr, qu'il y a des situations faciles que Dieu nous accorde. N'oublions jamais le but de la mission. Eh oui. La miséricorde de Dieu. Eh oui. Et lui, j'ai rencontré un frère, ce n'est pas dans la région, lui, il était irrité, il n'était pas content parce qu'il était dans une zone, il avait un petit cabanon dans une zone inondable. Le courant avait tout emporté, il était irrité contre Dieu. Il avait deux maisons, il avait besoin de tout ce qu'il fallait. Mais il dit, je ne suis pas content pourquoi Dieu m'a fait ça. Alors je lui dis, est-ce que les gens qui se trouvent autour de toi, tu leur as témoigné? Oui, ben je vais dire. Il était irrité. Je lui dis, remercie Dieu de ce qu'il te reste quand même quelque chose. Bénis Dieu, ben je vais dire. Il était vraiment irrité. Donc on a besoin de nous rappeler que ce qui était arrivé à Jonas peut aussi nous arriver. Le lendemain, Dieu est intervenu. J'ai terminé en rappelant ce soir que cette histoire de Jonas, elle est vraiment d'actualité. Dieu lui dit au verset 10, l'Éternel dit, tu as pitié du ruisseau qui ne t'a coûté d'aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent distinguer le doigt de leur gauche et des animaux en grand nombre. Alors je me suis dit, est-ce que dans la ville de Manosque, ce n'est pas, il n'y a pas 120 000 hommes, mais certainement qu'il y a des gens qui ne savent pas distinguer le doigt de leur gauche et qui périssent. Voilà. Que Dieu fasse que nous ne puissions pas nous irriter, mais au contraire, de témoigner et de croire que Dieu peut changer la situation. Que le nom du Seigneur soit béni.